Pascaline Roux, présidente de l'association de Bouche à Oreille. Est-ce que pouvez nous présenter un petit peu l'association, son histoire et ses projets?
Alors, Bouche à Oreille est née fin 2012 de la tête de plusieurs personnes qui étaient ou dans le soin, ou journalistes, ou enseignants, et qui voulaient faire connaître l'art de la parole, le conte, utiliser tous les récits traditionnels, mais pas que, les mythes. Parce que c'est une culture populaire, et qu'avec cette culture populaire, on estimait qu'on pouvait faire du lien social. Dans notre souci, c'était l'utiliser pour faire du lien, pour créer de la mixité sociale, pour amener le public sur des lieux culturels et des lieux de spectacle qui ne faisaient pas peur et qui pouvaient leur parler. Ça s'est construit il y a une dizaine d'années et sans local. On allait partout où on nous demandait. C'est-à-dire que quand on a commencé à exister, parce que des gens avaient des demandes, des écoles, ça a commencé comme ça. Comment on pourrait faire du lien dans des quartiers prioritaires avec les parents qui étaient en grande difficulté dans leur lien avec les enseignants? Et donc on a commencé en allant dans des écoles de quartiers prioritaires, en racontant des histoires, parents, enfants, et en faisant en sorte qu'il y ait des lieux plaisir qui se créent, qui s'organisent, et qui fassent que les liens enseignants-parents, parents-enfants, parents-enseignants puissent s'harmoniser. C'est comme ça que ça a démarré. Et donc maintenant on existe de façon plus organisée. Depuis 2 ans on a un local qui nous a été mis à disposition par un bailleur social. Et dans ce local où on peut faire des animations, des propositions diverses, des spectacles, on est content d'accueillir le public de toute la ville de Manosque et au-delà, puisque maintenant on a toute une programmation qui rayonne sur les communes avoisinantes et on travaille avec de nombreux partenaires.
Dès la base de la création de l'association, il y avait la question quand même de l'aspect social et de transmettre
tout à fait
les valeurs initiales.
Oui, et en partant vraiment de cet outil populaire qu'est le conte, parce que ça appartient à toutes les cultures. Il n'y a pas de fossé, en fait. Quand on raconte une histoire dans une langue, il y a tout de suite des correspondances dans d'autres, ce qui nous a amené petit à petit à faire des propositions dans des lieux, puisque c'était aussi notre éthique, notre point, c'est aller là où la culture ne va pas, ne jamais prendre la place des artistes. Et à partir du moment où il y avait suffisamment d'argent, c'était mettre en lien avec des artistes professionnels. Nous, on est là pour faire découvrir le conte. Donc, on va là où il n'y a pas l'argent. Et là où le conte a besoin d'être connu, où il peut faire du bien. Donc, on intervient dans des EHPAD, dans des foyers qui accueillent des personnes Alzheimer. Et outre les quartiers prioritaires, dans les petites communes, là où il n'y a pas beaucoup d'argent aussi, quand on peut faire des partenariats. On organise des ateliers, avec des personnes qui sont en situation de migration ou qui sont étrangères, qui veulent avoir une meilleure expression orale. Donc en partageant les histoires, on propose des ateliers de conversation où les histoires des uns et des autres peuvent faire résonance et entraîner des discussions. Mardi dernier, par exemple, c'était super intéressant. Hier, on était entre... il y avait des bénévoles de l'asso et puis il y avait une personne chilienne, quelqu'un de Jamaïque, quelqu'un d'Algérie et quelqu'un d'Égypte. Multiplicité d'origine. Et en partant d'histoire, ce partage a énormément de valeur. Hier, on est parti d'une histoire extrêmement simple. C'était une histoire qui est avec un héros entre guillemets très connu sur le continent africain, la Nasreddin, qui peut s'appeler Hodja, qui a plein d'autres noms. Et à partir de cette histoire très simple de sagesse et de folie, on est parti sur des discussions extrêmement philosophiques et même la philo. Mais qu'est-ce que c'est? Mais comment on peut partager les idées? Mais comment on peut se dire des choses tout en pensant pas la même chose?
Ce qui est très intéressant, paradoxalement, c'est qu'en fait la transmission de contes, initialement, n'a pas besoin d'être associée à l'écriture, à la lecture.
Absolument.
Tout était transmis dans l'oralité, etc., au niveau des mythes.
Et beaucoup de personnes qui viennent, par exemple, dans cet atelier dont je viens de parler, viennent de cultures, particulièrement quand sont originaires d'Afrique, ils viennent de cultures orales. Il y a une personne qui n'était pas là hier, mais qui a vécu toute son enfance et son adolescence avec des apports d'histoire pour l'éduquer. C'est un mode éducatif fondamental. Donc en partant de là, on peut avoir des échanges extrêmement riches et il n'y a pas de sachant et de pas sachant, il y a un partage.
Vous vous appuyez en fait fondamentalement sur les principes de l'éducation populaire?
Oui.
Consciemment ou inconsciemment?
Oui, on n'a pas de formation à l'éducation populaire, mais fondamentalement, c'est quelque chose qui résonne énormément dans les choix qu'on peut faire au niveau de l'association.
Et en quelques chiffres, donc l'association, on a dit, ça fait plus d'une dizaine d'années d'existence. Mmh. Et là, aujourd'hui, vous avez combien de bénévoles? Donc vous avez un salarié depuis récemment?
Oui. Bon, on a un salarié parce qu'on a été aidé, soutenu par la politique de la ville. Il y a environ d'actifs bénévoles, que ce soit pour compter ou pour soutenir toute l'organisation, 24-25 bénévoles. Un petit peu plus peut-être au moment du festival, qui est en novembre, quand on a besoin de bras et puis d'accueillants, enfin au niveau de la logistique. Tous les gens qui gravitent autour de l'association, qui ne sont pas bénévoles, mais qui adorent passer un moment, soit dans les propositions qu'on fait au local, comme les apéros comptés. On aime bien, on a recréé des moments comme ça, conviviaux, où autour d'un verre et de quelque chose à grignoter, les gens se retrouvent pour partager une parole, une chanson, une poésie, une devinette, une histoire, un récit. Et c'est extrêmement convivial, un peu comme le café du coin. Mais voilà, des moments conviviaux comme ça, ou bien le mercredi après-midi, une fois par mois, on appelle ça compte en famille, vient qui veut, pour écouter des histoires. C'est sûr qu'il y a un panel d'enfants, donc on va s'adresser aux enfants. Mais il y a des adultes qui sont là parce que ce sont simplement des adultes isolés, ou des adultes qui ont envie de mieux maîtriser la langue française, qui ont envie d'écouter des histoires. La dernière fois qu'il y avait compte en famille, il y avait, c'était rigolo parce qu'il y avait des familles d'origine chinoise et puis des familles d'origine marocaine ou algérienne. Donc des histoires étaient racontées, les enfants comprenaient et parfois c'était les enfants qui traduisaient aux parents, ou bien les parents qui trouvaient les solutions à des devinettes qu'on pouvait poser et qui le donnaient dans leur propre langue. Et on a partagé comme ça aussi des chansons dans la langue des participants qui étaient là. Ça fait partie vraiment de notre façon de voir et de faire les choses, de partager nos cultures.
Les histoires, au final, vont se croiser, se retrouver. Il y a des points communs entre les différentes cultures. Et même si les détails ou le nom du personnage ne sont pas les mêmes, au final, on doit arriver souvent au même moral des histoires ou des choses comme ça.
Oui, complètement. Alors, les contes n'ont pas de morale à proprement parler, parce que l'idée, finalement, c'est... Non, on ne peut pas parler de morale. La morale, c'est vraiment quelque chose qui indique une bonne chose à penser. Dans la morale. Alors qu'un conte, il ouvre à la pensée. Un peu comme une réflexion philosophique, il n'est pas là pour donner un avertissement. Ça existait hein, dans les contes. Les contes d'avertissement ont existé, mais c'est souvent avec Perrault, avec
Grimm.
Grimm a commencé un peu, mais moins. Mais c'est surtout Perrault qui a mis ça en place. Et effectivement, c'était une utilisation que les adultes ont pu faire des contes d'origine populaire. D'en faire des contes d'avertissement. Mais il n'y a pas besoin de le dire. Il se passe plein de choses et chacun, 10 spectateurs, 10 auditeurs pour une même histoire et 10 qui repartent avec leur propre vision de l'histoire. On n'est pas touché au même endroit. Après, c'est vrai que ça n'existe plus, hein, les transmissions par l'oral dans notre pays. On est quelques-uns un peu vieux à avoir connu ça. Mais prioritairement, les contes, on les découvre par le livre.
Vous continuez de développer une forme d'oralité, j'imagine. Oui. Et du coup, vous remettez au goût du jour cette oralité.
Avant l'écrit, il y a l'oral. On est dans une société qui a un primat de l'écrit qui est extrêmement puissant, mais qui du coup sclérose et verrouille la pensée d'une certaine façon. Si on ne maîtrise pas bien l'oral, l'écrit reste pauvre, et l'accès à l'écrit reste compliqué. Du coup, c'est pour ça qu'on intervient d'ailleurs dans les écoles, notamment les écoles de quartier prioritaire. Il y a beaucoup d'enfants qui sont primo-arrivants, des parents qui ne maîtrisent pas la langue. Soutenir l'idée que le bilinguisme, c'est quelque chose de fondamental et qu'il doit être cultivé et qu'on doit parler dans sa propre langue maternelle à ses propres enfants pour améliorer l'expression orale. Parce que dans le conte, la structure même du conte donne à penser et soutient énormément de choses qui sont des choses fondamentales pour les apprentissages. La mémoire, l'organisation d'un récit, notamment toute la question d'organiser un récit dans un rapport cause-conséquence. Ce sont les premières armes pour s'exprimer et pour partager ses opinions et ses pensées.
Le grand temps fort de l'association est en novembre, lors du festival.
Notre festival s'appelle les Globetrotters. 6 jours de programmation, tout public avec plusieurs partenaires. On est partenaire avec le réseau des médiathèques, avec Volks, Villeneuve, Bannon, l'école de Bannon, l'école de Villeneuve. Enfin, vraiment énormément de personnes. Dans beaucoup de villages, je pense que cette année, on doit être dans 6 ou 7 villages de la DLVA et hors de la DLVA vers Bannon. Avec des programmations pour tous les âges. Cette année, on a une programmation, ça va de la petite enfance, toute petite enfance, avec des propositions parents-enfants autour des berceuses et des comptines. Puis plusieurs spectacles adultes le soir, adultes et grands adolescents. C'est un moment important pour nous. L'année dernière, il devait y avoir à peu près plus de 1000 personnes qui sont passées dans le festival.
Et vous ne travaillez pas du tout avec les centres sociaux, les MJC ?
On est très en lien avec le centre social de Manosque. L'atelier dont je parlais tout à l'heure, atelier oralité, avec des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française, c'est en lien beaucoup avec le centre social. On intervient dans les cités. Quand on intervient dans les cités, on est en lien avec le centre social. On fait des propositions pour les fêtes de quartier, pour les fêtes de fin d'année avec le centre social. Parmi les partenaires, on en a beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a comme partenaire encore? Les écoles des quartiers prioritaires, le parc du Luberon, maisons de retraite, services culturels aussi. On participe à programmation compte du service culturel. Quand on dit qu'on va partout où la culture ne va pas et où il n'y a pas d'argent, on a toujours des propositions de cet ordre. Sur toute la programmation qu'on fait au festival, il y a peut-être 3 spectacles qui ont un tarif fixé, qui ne dépasse jamais 10 euros. Mmh. Le reste, c'est à participation libre ou gratuite. Ça demande des subventions.
Comment vous faisiez jusqu'à maintenant pour faire ces demandes de subventions? C'est bénévole qui assurait ça?
C'est toujours les bénévoles.
Oui, c'est toujours les bénévoles, ok.
on fait avec le salarié, ouais, mais c'est pas le salarié.
Oui, mais vous venez d'avoir un salarié, donc c'est-à-dire que vous avez 10 ans d'existence sans salarié.
Vraiment des gens qui donnent beaucoup de travail, beaucoup de temps.
Vous étiez au Printemps des Ruralités, au Théâtre du Rance, avec le Réseau 04. Oui. Pour rappel, le Printemps des Ruralités, c'est une conférence qui a eu lieu le 26 mars, qui était commanditée par le ministère de la Culture pour faire un état des lieux de la culture en ruralité. Et c'était en présence donc du préfet, du responsable de la DRAC, de différents élus, et tous les acteurs culturels étaient conviés. Donc il y a une grande journée de travail. Oui. Vous voulez dire un mot?
Moi, je pense que tous les acteurs qui étaient présents, on était tous un peu dans la même vision des choses. C'est-à-dire, d'abord faire entendre que culture et ruralité, il y a des choses spécifiques à penser pour être beaucoup plus en phase avec ce qui se passe sur le terrain. Il y a très peu d'argent, peu de moyens, une difficulté d'accès aux organismes publics, aux aides publiques type DRAC, lesquels ont peu de moyens aussi, de moins en moins de moyens. Beaucoup de choses sont données aux grosses structures. Il y avait à un moment donné un maire dans le groupe de travail où on était qui citait des chiffres nationaux, connus, du pourcentage d'aide accordée à tout ce qui peut être région Paris et l'Île-de-France et de ce qui est accordé en champ rural. C'est tellement monstrueux comme pourcentage que j'en ai pas la mémoire. Ça n'a rien à voir avec la moitié, c'est en deçà ce qui existe pour la culture en ruralité. Puis après, l'argent est donné à des structures grosses ou à des gros festivals. Tout ce qui est petit, tout ce qui fait rassemblement, tout ce qui fait collectif, tout ce qui fait réseau social, c'est pas pris en compte. À notre niveau, par exemple, faire reconnaître l'existence et l'intérêt du conte et du travail artistique autour du conte, magnifié par le fait qu'il y a des associations, la nôtre entre autres, qui fait connaître le conte à l'année, qui fait des choses pour qu'un public le découvre. Et quand les artistes, on peut les faire venir, quand on peut organiser le festival ou la petite nuit du conte début juillet, puisqu'on va faire sa 2e édition cette année, eh bien, c'est parce que sur le terrain, il y a eu des choses qui sont faites. Les artistes n'arrivent pas comme ça, parachutés, et on fait un travail de fond, je pense, qui permet à des artistes de vivre aussi lors d'occasions comme ça.
Et du coup, pour vous, qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui?
Les différents partenaires locaux étaient intéressants. En termes d'espoir sur la culture en ruralité, c'est visuel, je suis désolée, comme mou, mais...
Vous devez faire de l'onomatopée dans les contes.
Oui, je dis bof. On peut dire bof, quoi. Il n'y a plus d'argent. Tous les jours, on voit passer des messages de structures associatives ou de structures culturelles, quelles qu'elles soient, qui sont en baisse financière, qui sont aux portes de la faillite, des spectacles annulés. J'en ai encore vu hier, ça circule sur Facebook sans arrêt. Non, il n'y a pas d'optimisme.
Le Café Quoi ?
Le Café Quoi, qui a disparu. Nous, on était partenaires avec le Café Quoi d'un événement mensuel qui s'appelle les Dimanches du Comte, qui était superbe avec tous les spectateurs. Enfin, je veux dire, c'était plein, quoi. J'y crois pas. Je crois à rien du tout. Je crois que c'est... Il n'y a pas d'argent et sur place. Et, on le fait à moyen constant, mais à moyen diminué maintenant, avec un personnel qui diminue petit à petit, avec des baisses d'effectifs. Donc non, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens du blabla de parole qui est lancé sur ce que devrait être la culture. Il y avait des belles pensées partagées, là, hein, de gens sur le terrain qui disaient comment on pourrait fonctionner, telle expérience, c'est intéressant. Il y a plein d'expériences sur le département qui sont intéressantes. Mais comment elles sont soutenues ? Réellement.
Parce que du coup, votre modèle économique, c'est des subventions. J'imagine qu'il y a des adhésions.
Oui, on a des adhésions, ça rapporte un tout petit peu, mais ça ne rapporte rien. Nous, on a nos orientations éthiques et sur aller là où la culture ne va pas, là où il n'y a pas d'argent.
L'accessibilité,
ça suppose des subventions d'État. Donc, on a des subventions politiques de la ville, on a des subventions. CAF, MSA, conseil départemental autour de nos interventions sur la parentalité. Voilà, c'est le gros de nos subventions. Hein. CAF, REAP. Il y a un réseau d'aide à la parentalité qui s'appelle le REAP, réseau d'écoute et d'appui
à
la parentalité. Et donc ce réseau fédère énormément d'associations. On en fait partie. Et dans ce contexte-là, on a plusieurs projets en cours. Nous, on en a deux avec ce réseau, c'est les deux en cours sur le territoire. Le premier, c'est les semaines des familles qui vont avoir lieu pendant deux semaines, la semaine avant les vacances, donc à partir du 15 et la première semaine des vacances.
Du 15 avril, oui.
Et qui est en avril. Et dans ce cadre, le prochain compte en famille, la balade comptée dans la ville, voilà. Et là, ça va se terminer le 27 avril, si je ne me trompe pas, le samedi, par une journée... à La Rochette, au parc de La Rochette, où toutes les associations qui sont dans ce réseau vont être présentes dans différents espaces. Ça permet aux familles de trouver... Bon, il y aura plein d'activités, bien sûr. C'est un moment de fête. Ça va se terminer par un bal familial. C'est un moment de fête et c'est aussi un moment de découverte et de prise de connaissance pour certains de tout ce qui peut exister autour de la petite enfance, l'enfance, la parentalité, que ce soit en termes de culture, de loisirs, de numérique, de besoins d'aide en tant que parents. Il y a énormément d'associations qui vont être présentes. Voilà. Et le deuxième projet auquel on est associé, ça s'appelle Parents à hauteur d'enfant. Ça dure toute l'année avec des manifestations flash, avec des thématiques autour de comment être soutenu en tant que parent dans l'éducation de nos enfants. Il y a un peu cette thématique à la fois pour les semaines des familles et puis parents à hauteur d'enfant, il faut tout un village pour élever un enfant. Et donc l'idée, c'est d'être à plusieurs pour donner des temps à la fois de réflexion, hein, quant à la surcharge mentale qui peut exister quand on est parent, et des temps de répit, plaisir. Dans ce contexte-là, nous, on va proposer compte et gravure et compte et cuisine, et des temps de réflexion avec des conférences, des films. Le programme va bientôt sortir. Et puis ponctuellement, on va avoir un acteur qui va venir aider sur un projet, comme actuellement, on a un projet... en réseau d'éducation prioritaire avec un compteur professionnel, les enfants compteurs en grande section et CP dans ces écoles-là, ben, on va chercher l'argent, on défend des projets auprès de possibles financeurs. Donc c'est 5 mois de l'année qui sont occupés à chercher des financements, quoi. Et tous les ans, il faut recommencer. Et puis c'est une course en permanence à l'argent et on voit autour de soi des choses... s'effondrer, diminuer, parce que l'argent n'y est pas. Rien n'est pérenne.
Touche un peu plus positif, est-ce que vous voulez un peu nous parler du projet associatif, des choses que vous allez développer dans l'année qui vient, qui est déjà bien entamée?
On a deux gros événements dans l'année. Le plus gros événement, c'est notre festival en novembre. Là, il aura lieu du 12 au 17. Donc sur tout le territoire, en gros, des LVA, et puis vers Lure, vers Bannon, en gros, voilà. Et avec 4 artistes. En temps utile, on vous donnera toute la programmation, des spectacles, une conférence, des animations. Et puis, pour la deuxième année, on va faire notre petite nuit du conte à Saint-Martin-les-Eaux le 6 juillet, de 18h à minuit, conteur animé par les conteurs amateurs de l'association. Et puis, un conteur et deux conteuses qui vont animer la nuit, et un musicien, de 21h à minuit. Et l'année dernière, on a lancé ça l'an dernier à la suite de la venue de la Marche des Conteurs en 2022. Et on a été très surpris par le succès que ça a eu. Il y avait 250 personnes.
C'était où ?
À Saint-Martin-des-Eaux, toujours dans l'amphithéâtre de Verdure. Okay. Et c'était un bon moment dehors, sous les étoiles. Ça, c'est les deux événements les plus importants. Et puis après, toute l'année, les conteurs amateurs développent des actions. Alors, c'est les apéros comptés dans le local tous les deux mois, les mercredis du compte une fois par mois le mercredi après-midi, les interventions dans les écoles et les cités des quartiers prioritaires, toutes les semaines l'atelier oralité avec des personnes qui ne maîtrisent pas le français, tous les 15 jours des interventions en unité Alzheimer, projet qui nous tient aussi à cœur, qui dure depuis 3 ans, et puis des interventions ponctuelles qu'on va faire en lien avec le REAP, dans soutien à la parentalité. Donc on va proposer un atelier compte et gravure début juin, par exemple, pour des binômes parents-enfants, 5-8 ans, où vont se mélanger les histoires et graver l'histoire, en lien avec l'association Empreinte 04, ou compte et cuisine en octobre, en lien avec une thérapeute artistique, Virginie Besançon, où se mélange là aussi compte et goûter, activités gustatives et créatives. Et puis sinon, on a toute une programmation. Donc.
Est-ce que vous pouvez par exemple nous annoncer le spectacle de vendredi 5 avril, donc à 20h30, ce sera...
C'est Catherine Gaillard. Catherine Gaillard, c'est une conteuse qui vient de Suisse. Une super conteuse qui est pratiquement jamais venue dans le sud-est. Bon, y a des fois des régions de prédilection pour les conteurs professionnels. Une femme qui porte une parole engagée et en prenant en compte tout ce qui est rapport humain, lien et combat. Donc là, elle est partie de la thématique des Amazones et elle mêle à la fois l'histoire originelle qu'on connaît autour des Amazones et puis les Amazones modernes et des histoires et des récits de vie de femmes en lutte. On ne peut pas en dire plus parce que ce spectacle-là, on ne l'a pas vu, mais...
C'est une grande première de que vous accueillez un spectacle que vous n'avez pas vu, c'est ça.
Oui, c'est ça, oui. Nous, on aime bien connaître les spectacles avant. En même temps, on fait confiance à tout le réseau artistique national quand on nous soumet un spectacle de qualité. Celui-là, on sait que c'est un spectacle de qualité. Voilà. C'est une petite jauge chez nous, hein. C'est 50 places maximum.
Si, si.
Et ça fait un cadre intime, hein. C'est qu'on aime bien. Et ce sera à 20h30, vendredi.
Et donc, c'est payant ou pas ?
C'est à participation libre,
okay.
Prix libre et conscient. Tout ce qui se passe dans notre local fonctionne de cette façon-là. Pour nous, c'est important. C'est permettre à tout public de venir sans barrière financière.
Les seuls cas où il y a un prix fixe, c'est parce qu'il y a un partenariat avec une mairie, par exemple, qui demande à ce que le prix soit fixé, mais tout le reste est gratuit ou à prix libre.
Oui.
Donc, ça va être 95% des spectacles.
À peu près, voilà. Et même quand c'est payant, ça dépasse jamais 10 euros. Même la petite nuit du conte, qui dure 3 heures, avec 4 artistes, ça dépassera pas 10 euros. Après, on a en plus un partenariat avec Culture du Cœur, donc qui fait qu'il y a des places possibles pour les moments où c'est payant.
Donc, parce que Fréquence Mistral a du coup déjà reçu Culture du Cœur 04, qui a ouvert son antenne dans le 04 assez récemment.
Ouais. Ça manquait. Voilà. Après, nous, comme on a presque tout à participation libre, les Dimanches du Conte, j'en ai pas parlé, mais c'est un partenariat avec l'association Lupi Chaim de Forcalquier, avec Luigi Rignanès de la compagnie Ida, et puis c'était avec le Café Quoi. Et ce partenariat s'est arrêté donc en janvier. Mais on continue à faire ça à Niozel, à l'heure actuelle, pour avoir une proposition sur tout ce secteur nord de Manosque. Ça nous intéressait, toucher un public différent. Une fois par mois, on se retrouve à 17h, à 16h30, un dimanche, avec deux parties. Il y a une partie scène ouverte. Qui veut, monte sur scène, prend la parole, raconte une histoire, une poésie. Mais enfin, en général, c'est une histoire. petite pause gustative ou pour s'hydrater. Et puis ensuite, il y a un conteur professionnel qui vient et qui partage un spectacle. Soit un spectacle qu'il a besoin de faire, de rôder, de tourner, donc, soit un spectacle qui tourne déjà depuis un moment. Et c'est un moment de grande convivialité. Et c'est pareil, c'est à prix libre, totalement libre. On va recevoir le dimanche 21 avril, une conteuse de la région nantaise, Frédéric Soulard. On va faire un spectacle qui s'appelle Cendrillon Rébellion. C'est tout un programme.
Vous pouvez donner les contacts de l'association, comment vous retrouver. Si on est intéressé, comment on peut vous retrouver sur Internet.
Donc, il y a un site Internet qui est bouche-à-oreille-manosque.org. Bouche au singulier, oreille au pluriel. Un email qui est debouche-à-oreille.communication@gmail.com et un téléphone qui est le 07 68 57 56 11.
Facebook, c'est Bouche à Oreille et un peu plus loin, Manosque. Alors, les prochaines dates les plus proches, c'est donc vendredi avec Catherine Gaillard, conteuse suisse, et puis son spectacle Les Amazones. Ensuite, le 20 avril à 16h, rendez-vous ici au local pour une balade comptée. À la découverte des plantes qui poussent à travers le bitume. Ça s'appelle Fleurs de bitume, avec la conteuse Frédéric Soulard. C'est une balade un peu particulière, hein, qui mêle les histoires et les histoires des plantes et puis la connaissance botanique dans les rues de la ville autour de notre local. C'est ouvert aux familles, avec des enfants à partir de 7 ans, parce qu'il y a... les choses qui sont présentées ne vont pas pour les plus petits. Le lendemain, il y aura les dimanches du conte à Niozel à 16h30 avec les conteurs, toute personne qui veut prendre la parole, et le spectacle Cendrillon Rébellion avec Frédéric Soulard. Ensuite, le samedi 1er juin, on donne rendez-vous à 15h15 au parking de la forêt de Pélissier pour une randonnée contée avec Sylvie Viéville, conteuse, qui va raconter de site en site Jean de l'Ours, un conte traditionnel, ancestral, qui convenait bien à une randonnée dans la forêt.
Les apéro-contes et les contes en famille, c'est ça?
Oui, le prochain apéro-conte, ça sera le 14 mai, c'est un mardi soir à 18h30, de 18h30 à 20h en gros. Prochain conte en famille, c'est le 17 avril, à 14h30, toujours au local.
Comptez-nous l'adresse du local, parce que pour vous trouver, imaginez.
C'est vrai que c'est pas facile à trouver. 6 rue de la Brasserie, l'immeuble des Bernardines, et en fait, ça se trouve entre la rue d'Aubette. Donc, pour ceux qui connaissent la rue d'Aubette, il suffit de la monter, de prendre la deuxième rue à gauche, et on tombe assez facilement sur le lieu. Donc, entre la rue d'Aubette et la rue d'Anton. C'est un petit endroit perdu, juste adossé à la place du Caragou.
Dans un immeuble jaune, en fait, on faut le dire.
C'est vrai, dans un immeuble jaune. Vous pouvez passer au local et puis téléphoner aussi pour avoir des renseignements sur toutes les actions qui peuvent exister. S'il y a des gens qui sont intéressés pour participer au mardi matin, le mardi matin à l'atelier oralité, pour des ateliers de conversation pour personnes souhaitant mieux maîtriser le français. Ça n'a pas lieu au local, ça a lieu dans la cité des Alisiers, mais tous les renseignements sont disponibles au local.
Okay. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, le mot de la fin?
Pour ceux qui aiment... Alors, mot de la fin, on espère durer longtemps, et on espère surtout que des gens aient envie de nous retrouver, soit pour raconter, parce qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé qui est importante. Une fois par mois, tous les conteurs bénévoles se retrouvent un après-midi pour partager leurs histoires, s'essayer, s'améliorer. Et c'est ouvert à toute personne qui a envie de rentrer doucement dans l'association, venir conter avec nous. C'est sûr que c'est plus facile de prendre un livre et de raconter une histoire que de raconter une histoire juste à l'oralité. Ça suppose...
La pratique.
Une pratique, mais tout ça se partage et peut venir toute personne qui a envie d'intégrer l'association. Donc on fait appel aux bénévoles. Peut-être le mot de la fin, c'est que les bénévoles, c'est important à tous les niveaux. C'est pas que venir raconter des histoires, c'est soutenir toute l'organisation de l'association.
Faire des demandes de subventions.
Faire les demandes de subventions, soutenir les membres du CA, participer à l'élaboration, on y tient beaucoup.
C'est aussi de la logistique, de la cuisine,
c'est plein de choses, mais la question de l'accueil, on on essaye de la travailler, c'est pas toujours facile, mais par exemple vendredi, la conteuse qui va venir, ben, en général les artistes mangent après, ben, on propose aux bénévoles qui sont là de manger tous ensemble après le spectacle. Voilà, donc c'est cet aspect convivialité qui nous semble important à maintenir. Bon, c'est pas toujours facile, mais c'est important. Puis je sais pas quel mot dire pour la fin, c'est après avoir parlé de l'état de la culture à l'heure actuelle.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres dans votre local.
Non, il n'y a pas beaucoup de livres. Les seuls livres qu'il y a, il y a une bibliothèque qui est consultable par tous les bénévoles, qui est une livre remplie d'histoires à partir desquelles on peut fonctionner et réfléchir. Parce qu'on propose aussi des formations avec des conteurs professionnels pour les débutants, puis pour les plus pratiquants, et aussi des formations de réflexion. On a eu le mois dernier Marco Barret, fondateur du Centre méditerranéen de littérature orale, qui est venu nous parler pendant 2 jours de la symbolique dans le conte merveilleux. Voilà, et l'année dernière, on avait partagé une réflexion de 2 jours sur le féminin dans le conte merveilleux au XXIe siècle. Et on aura d'ailleurs une conférence avec Karine Mazel pendant le festival sur Contes merveilleux au XXIe siècle. Pourquoi Contes merveilleux et féminisme et violence, et voilà, que peut-on penser autour de ça ?